RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. Pour animer cette émission, co-animer cette émission, Tanguy Détrose est avec nous. Bonjour Tanguy.
Bonjour Billy.
Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Metron qui nous reçoit dans ses locaux. Et à vos côtés, Jean-Christophe Gianesini, directeur associé d'Ecodev. Bonjour et merci d'être là Jean-Christophe.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons Alain Masson. Il est directeur responsabilité sociale et environnementale à la direction des projets stratégiques et également RSE de Sodexo. Bonjour Alain.
Bonjour Milly.
Merci d'être avec nous. Mon cher Alain, vous êtes né en 1963 dans le Calvados, à côté de Caen.
Ouais.
Vous êtes un amoureux de la nature et vous vouliez travailler dans les eaux et forêts. Mais bon, vous étiez excellent en maths. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait des études, notamment un bac D, maths et sciences, et ensuite un DUT de technique de commercialisation qui ouvrait des portes à plusieurs secteurs d'activité. Lequel avez-vous choisi comme secteur?
Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, mais le secteur qui m'a accueilli pour mon premier emploi, c'est le secteur de la distribution.
Mmh, vous étiez chez Casino?
On était, voilà, j'étais dans le groupe Casino.
D'accord. Pendant 5 ans, à la cafétéria.
Alors, c'est le poste sur lequel j'ai abouti. Mais au départ, j'ai fait mes gammes. Mmh. Parce qu'on faisait les gammes, c'était une très bonne école, Casino. Et au départ, j'étais en magasin. Donc, j'ai fait à peu près tous les rayons. Et puis ensuite, on m'a proposé un poste en cafétéria. Et comme tout ce qui touche de près ou de loin à la nourriture m'intéresse, voilà, j'ai suivi cette voie.
Alors, à la cafétéria, le seul petit souci chez Casino, et on reparlera de la méthode que vous avez appliquée ailleurs, donc elle est excellente, mais c'était les horaires. Il y a un moment, vous dites, il faut que je vive un peu. Alors, vous faites le choix d'aller chez Sodexo, comme gérant du resto inter-entreprise. Vous étiez dans un endroit magique, c'est dans les sous-sols des antiquaires du Louvre, donc c'est quand même un joli quartier. Et là, vous mettez justement en place les méthodes Casino. Et ni une ni deux, ça marche, le resto perd plus d'argent. C'est extraordinaire, ça.
Oui, oui, alors c'est vrai que Casino est pour ça est une très très bonne école. Et c'est vrai que sur les métiers de l'alimentation, on est vraiment sur la culture du dernier centime.
Mm-hmm.
Et effectivement, ces méthodologies, à l'époque, n'existaient pas dans le groupe Sodexo. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est vrai que ça a amené tout de suite des résultats assez probants, en prenant des risques avec l'équipe, parce que j'ai été un petit peu, on dirait, disruptif aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mais ça a fonctionné, donc c'est vrai que c'était plutôt assez sympathique. Et puis, les équipes ont adhéré aussi assez vite, ce qui était très important.
Alors, après avoir rempli les caisses de ce restaurant, première page qui se tourne dans votre carrière, au bout de 5 ans, vous basculez dans les RH, ça vous plaît énormément. Ensuite, vous allez faire de nouveau un détour par les ventes. Mais le travail en solitaire, ce n'est pas votre cas, vous.
Non.
Il vous faut une équipe. Donc, on vous propose la com. Alors, RH, com, au départ, tous les magasins, l'alimentation. Comment vous arrivez à vous y retrouver quand vous êtes à la com?
C'est-à-dire que quand on m'a proposé le poste, je l'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on me proposait ça, puisqu'effectivement, je n'avais pas fait d'études de communication. Par contre, il y avait un pan de ce poste qui, je pense, touchait ma fibre un peu sociale. C'était un programme qui s'appelle chez Sodexo Stop Hunger, qui est un programme de lutte contre la faim et de la malnutrition.
C'est avec les Restos du Cœur, en
voilà.
Plus. Donc, on retrouvait la restauration quelque part. Enfin, le mot.
Ouais, et beaucoup d'aspects sociaux, puisque moi, j'ai pu aller un petit peu à l'intérieur de l'organisation des Restos du Cœur, et c'est une expérience qui est difficile, mais super intéressante.
Après cette expérience, vous prenez les rênes de ce qu'on appelait à l'époque la mission handicap, qui aujourd'hui est souvent inclus dans la RSE, et le projet diversité-inclusion. Là, ça vous a mis dans les starting blocks pour arriver directement au poste ensuite de la RSE?
Oui, parce que chez Sodexo, la RSE, enfin, j'imagine dans d'autres entreprises, couvre évidemment, parce qu'on parle RSE, développement durable, et je trouve que quand on parle encore maintenant de développement durable, on est plutôt sur la partie environnementale. La RSE, c'est bien le S, c'est bien le social et le E, l'environnement. Donc, la diversité et l'inclusion sont intégrées dans la RSE. Et c'est vrai que moi, j'ai fait ça pendant entre mon poste de responsable mission handicap et poste de projet diversité et inclusion un peu plus de 6 ans. Et à un moment donné, je voulais aussi changer, c'est la possibilité qu'offre une entreprise comme la nôtre. Et c'est vrai que le poste de RSE, c'est un petit peu, j'ai pas offert à moi, mais c'était à l'époque pas forcément, c'était un poste qui n'existait pas.
Vous êtes voilà. Le premier à l'avoir fait. C'était une création
oui.
de poste
oui,
pour
exactement.
Vous.
Oui, exactement.
Il y avait tout à construire ou il y avait déjà les bases?
Alors, non, il y a quand même les bases. C'était plus une question d'organisation. Parce qu'heureusement, dans une entreprise comme la nôtre, heureusement que je ne suis pas le seul ou avec ma petite équipe à parler de RSE et faire en sorte que le sujet soit totalement pris en compte par l'ensemble des opérations, parce qu'on a une organisation très décentralisée. Et donc voilà, heureusement, il y a plein d'autres services, notamment la supply chain, qui œuvrent sur ces thématiques RSE.
Allez, les questions avec Tanguy et également Jean-Christophe. C'est Tanguy qui démarre.
C'est Tanguy qui démarre. Alors, moi, dans les infos qu'on m'a fournies, on me dit Sodexo, c'est plus de 400 000 salariés.
Alors, dans le monde, oui. En France, c'est 30 000 salariés.
30 000 salariés, c'est déjà pas mal, hein, oui. Une belle petite boîte. Comment on fait quand on a 400 000 salariés sur 5 continents, j'imagine, pour valider, concrétiser une approche RSE? C'est un challenge. C'est plus compliqué que d'aller sur la Lune, ça, non?
Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que tous les sujets sont compliqués à partir du moment où vous êtes effectivement en France 30 000 salariés répartis sur 5 000 sites. Voilà. Ça, c'est compliqué. Et que vous parliez de comptabilité, de paye ou de RSE, faire passer l'information et diffuser et acculturer l'ensemble de la ligne opérationnelle, oui, c'est un challenge. C'est pour ça que je ne peux pas être tout seul là-dessus. Et nous, on a un système qui est assez classique de cascading, où effectivement, on embarque au tout départ. On n'a pas énormément de niveaux hiérarchiques. Donc, c'est d'abord step by step, c'est-à-dire que c'est d'abord les engagements et la formation des dirigeants, ce qu'on appelle le COMEX. Et puis ensuite, tout doucement, ça se diffuse au niveau des opérations. Mais aujourd'hui, pour être très humble, ça fait 3 ans et demi que je m'occupe de ce sujet-là. Je vais encore sur des sites aujourd'hui, quand je dis bonjour à Alain Masson en charge de la RSE, des personnes me disent « mais c'est quoi la RSE ?» Voilà. Quand ils disent la RSE ou le RSE, voilà. Donc c'est, non, oui, c'est un challenge, mais et ça prend forcément beaucoup de temps.
Et du coup, ça veut dire que dans toutes ces entités, j'imagine un petit peu autonomes quand même,
complètement.
Chacun est libre de choisir ses fournisseurs, ses circuits courts, de trouver des produits qui sont les plus RSE compliant possible.
Alors, nous, on a la chance d'avoir donc cette organisation décentralisée. C'est pas forcément une chance, mais on a évidemment des structures en région qui vont, par exemple, sur les produits sourcer un certain nombre de produits locaux. C'est-à-dire que les produits que vous allez acheter en Auvergne-Rhône-Alpes ne seront pas forcément les mêmes, évidemment, que ceux qu'on achète dans les Hauts-de-France. Donc tous nos acheteurs régionaux, il y en a 9, vont effectivement sourcer les produits, les mettre au catalogue en fonction des différentes, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais différentes offres qu'on offre à nos consommateurs selon les segments de marché. Ils vont avoir effectivement des produits qui aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, sont estampillés, alors pas forcément RSE, mais achats locaux, achats inclusifs, hein, puisqu'on a développé cette partie-là des achats responsables. Et donc le responsable de site, le manager, va pouvoir aller choisir ces produits qui seront quand même un petit peu guidés pour pas aller dans tous les sens effectivement.
Jean-Christophe.
Oui, bonjour. Pour démarrer, j'aurais bien aimé que vous puissiez nous parler justement un petit peu de la démarche RSE Sodexo. Mmh. C'est intéressant parce que il y a l'aspect, comme vous le disiez, environnemental auquel on pense pas forcément, mais il y a surtout l'aspect social qui je pense est extrêmement important. Du coup, je veux bien que vous nous disiez un petit peu plus sur les différents piliers et axes d'engagement que vous avez développés.
Ouais. Alors on a une feuille de route. Alors ça s'appelle en bon français le Better Tomorrow 2025, mais on a une feuille de route qui comprend 9 engagements. C'est-à-dire qu'on a différents rôles et on a différents impacts. Et on a le premier des engagements, et parce que vous avez bien compris qu'on est une entreprise, comme disent les anglo-saxons, une people company, c'est la santé et la sécurité des collaborateurs. On est dans des activités qui ne sont pas forcément dangereuses, mais qui demandent un certain investissement, avec éventuellement des matériels qu'il faut savoir manipuler. Donc ça, c'est le premier engagement. Le deuxième, c'est la diversité et l'inclusion. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ces sujets-là, notamment des sujets de mixité, puisque historiquement, on a 2 grands métiers, la restauration et la maintenance. Donc, pas du tout des métiers masculins à l'origine, vous imaginez bien. Donc, ça, c'est un deuxième sujet très important. Ensuite, l'acculturation de nos collaborateurs, vaste sujet, et c'est toujours en cours. La partie, offrir une offre très saine, diversifiée à nos consommateurs. Et ce n'est pas toujours simple, puisqu'on est aussi quelquefois obligé un peu de les éduquer. Et puis, toute la partie achat local, achat de proximité. Qui, évidemment, tout ça arrive à une empreinte, au calcul dans l'empreinte carbone. Et puis ensuite, on a encore trois autres volets. Le Stop Hunger, dont je parlais tout à l'heure, qui est un programme de lutte contre la faim. Encore un aspect diversité inclusion sur vraiment, et c'est extrêmement important en ce moment parce qu'on vit une crise de recrutement comme jamais on l'a connue dans les métiers de la restauration et dans d'autres secteurs d'activité. Et puis la dernière partie qui est relativement nouvelle mais qui nous occupe bien, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, donc on a une feuille de route, 9 engagements, et ces 9 engagements sont plus ou moins pris avec la même intensité en fonction des régions et également des segments de marché.
Et alors, justement, par rapport à cette démarche-là et votre niveau d'avancée, si vous deviez vous auto-évaluer, typiquement sur une démarche Bicorp qui peut correspondre à l'aboutissement, en tout cas en termes de certification, assez difficilement, parce que pour une structure comme la vôtre, avec forcément autant d'employés, c'est pas évident. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes au milieu du parcours, vous êtes tout près d'arriver.
Alors, pour être très transparent, je connais le nom Bicorp, mais je n'ai jamais été dans le détail de ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ces 9 engagements ou ces 9 axes, je pense qu'on est plutôt bien avancé, mais parce qu'on l'a pris nettement en amont sur la partie, effectivement, people et diversité et inclusion. Je ne vais pas donner les taux, par exemple, de personnes handicapées, mais voilà, on bosse depuis très longtemps là-dessus. Et j'allais dire que le sujet du moment, c'est vraiment, et on en a parlé un peu avant, c'était l'empreinte carbone. Voilà. Alors, on a une empreinte carbone différente d'autres entreprises, évidemment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met les moyens, on met des ressources et on commence à développer des outils parce que c'est aussi nos clients et nos prospects qui nous demandent de travailler là-dessus. Mais voilà, donc je ne sais pas si on plaque ça sur un référentiel Bicorp, ce que ça donnerait comme note. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'on vient d'être labellisé pour un segment RSEI. On a un label RSEI parce qu'on a la chance d'avoir... d'avoir une structure d'insertion au sein du segment éducation chez nous.
Mmh. Dernière question avec vous, Tanguy.
Mais écoutez, on sera ravis de vous aider à déployer un système de suivi de votre performance énergétique. Ça, je ne pouvais pas ne pas le placer. si vous deviez continuer la phrase, dans 3 ans, vous seriez super content si au niveau RSE chez Sodexo, on a atteint...
Alors, on a atteint l'objectif, en termes de, je vais parler diversité et inclusion, en termes de mixité, parce qu'on a fait énormément de progrès là-dessus, mais c'est encore pas complètement gagné, puisque chez Sodexo, on a la chance d'avoir une étude en interne qui prouve que, quand on a une équipe mixte avec 60% de femmes ou 60% d'hommes et 40% à l'inverse, on a plus de performance. Hein, donc, c'est bien des sujets de performance, c'est pas que pour avoir des awards, même si on en a, mais c'est vraiment ça. Et puis, vraiment, s'engager dans une trajectoire carbone. Je pense que ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels il ne faut pas lâcher et qui sont, encore une fois, demandés par à la fois le marché, mais aussi les personnes qui vont nous rejoindre, puisque je pense que les jeunes générations, notamment, pas que, sont très, très attentives à ce type d'action.
Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Je vais poser maintenant la question la plus difficile à Alain de cette émission. Alain, en tant que RSE, est-ce que c'est compatible avec la passion du sport automobile ?
Pas du tout.
Vraiment tombe. Vous êtes un fan absolu, hein. Alors la F1, le rallycross. Alors expliquez-moi ce petit décalage.
Ça a déjà été remarqué en interne. Non, effectivement, c'est une passion qui me tient pour le sport automobile depuis l'âge de 14 ans. Donc vous calculez avec mon année de naissance, ça fait quelques années. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Le parcours des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des femmes. Un peu plus d'hommes, mais...
Pas en Formule 1.
Pas en Formule 1. Non. Dans
enfin, j'arrive.
De promotion,
hein,
mais,
j'arrive.
Mais voilà, c'est pas très représenté. Mais c'est vrai que voilà, oui, c'est une passion qui me tient depuis des années. Et c'est vrai que ça me... Voilà, j'éprouve même des sensations physiques quand j'entends un très beau moteur, atmosphérique notamment. Mais c'est vrai que c'est pas... Alors, je prends pas beaucoup l'avion, donc...
Vous vous contentez, je prends peu l'avion, donc je peux aller regarder une course automobile.
Exactement.
Sur la F1, Senna, Prost, Cocorico. Prost qui avait une approche stratégique extraordinaire, ça faut le répéter. Et alors vous êtes fan aussi de Fernando Alonso, parce qu'il ne lâche rien. J'ai l'impression qu'il vous ressemble, Alonso, il ne lâche rien.
Oui, c'est quelqu'un qui a 41 ans et qui continue une carrière en F1.
Qui est rare. Hein.
Voilà, exactement. Et avec, en termes de performance autour, je pense que c'est un des meilleurs. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que c'est un sport qui peut être, on le voit, hein, des jeunes talents, même à 17 ans. Max Verstappen a démarré, je crois, à 17 ans.
On voit où il en est aujourd'hui.
Champion du monde. Mais il y a encore des personnes qui sont un peu plus âgées et qui continuent à apporter leur expertise, parce que je pense qu'il y a ce rôle de mentor que peut aussi exercer un Fernando Alonso, vis-à-vis d'un Esteban Ocon. Mais bon, je pense que je pourrais en parler pendant quelques...
Absolument. En tous les cas, Alain, je vous remercie pour votre franchise sur cette dernière question. Je remercie également Tanguy et Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.